les podcasts de Radio Vatican.
La 9e nuit des témoins organisée par l'aide à l'Église en détresse s'achève ce lundi 27 mars 2017 à Perpignan. Depuis 4 jours, Reims, Paris, Sainte-Anne-d'Auray et Monaco ont déjà accueilli des veillées de prières ponctuées de témoignages de différentes personnalités. Parmi elles, le père Jacques Mourad, prêtre syrien et moine de la communauté de Marmoussa, qui a été otage pendant 5 mois de l'État islamique, la mère Marie-Catherine Kimbo, fondatrice de la Congrégation des Servantes du Christ qui agit au Niger, mais aussi le père Philippe Blot, prêtre des missions étrangères de Paris qui vit en Corée du Sud depuis 1990. Les centres pour les jeunes sud-coréens de la rue dont il s'occupe à Séoul se sont ouverts aux enfants de réfugiés nord-coréens, des réfugiés dont il nous raconte le périple et la difficile adaptation à la Corée du Sud.
C'est ce qu'on appelle la grande évasion. D'abord, il faut qu'ils quittent leur pays. C'est toujours terrible, ça. Ils prennent cette décision qui est sans retour. Et puis ensuite, ils vont vers l'inconnu. Ils doivent se fier à des passeurs. Tout ça, c'est au risque de se faire trahir par les passeurs. Ils font tout ça pour l'argent, mais je veux dire qu'il y en a qui sont à la solde aussi du gouvernement nord-coréen. Donc, ils sont chargés aussi pour les faire attraper. Ensuite, donc, ils doivent d'abord franchir cette frontière qui est matérialisée par deux petits fleuves. Et donc, arriver ensuite en Chine. Et en Chine, c'est une autre aventure. S'ils ont de la famille, des restants de famille et des amis qui peuvent être accueillis là, mais s'ils ont personne, alors soit ils peuvent se faire prendre aussi par d'autres personnes qui les attendent de l'autre côté de la frontière, ou soit ils sont accueillis par une famille où il y a aussi des bénévoles qui sont volontaires, notamment beaucoup de protestants qui les accueillent au nom des différentes églises. Alors d'autres qui sont pris en charge par personne, eh bien, ils essaient par eux-mêmes d'essayer de trouver un travail pour survivre d'abord, en Chine, pour ne pas se faire prendre, bien sûr. Et donc, il y a aussi des réseaux pour ça.
Leur objectif, pour certains, c'est aussi d'aller en Corée du Sud, je suppose.
Au départ, c'était ça. Pour ceux, notamment, qui ont de la famille, qui sont déjà arrivés en Corée du Sud. Deuxième chose, ils ont pratiquement la même langue. C'était le même pays avant la partition de la Corée. Mais c'est différent maintenant. Leur pays a été séparé depuis 70 ans. Ils finissent par savoir, par bouche à oreille, que vivre en Corée du Sud, c'est aussi très difficile comme vivre dans un pays étranger, si ce n'est pire. Parce qu'il y a une certaine ségrégation des réfugiés nord-coréens en Corée du Sud. Plus la différence de culture entre la Corée du Sud et la Corée du Nord est tellement énorme, très très difficile. Et donc les destinations maintenant ont changé. Et bien, c'est toujours la Corée du Sud en premier, mais très vite arrive le Canada, et puis ensuite les États-Unis, la Hollande aussi. S'ils peuvent rester en Chine, ils essaient de bien apprendre le chinois, bien sûr, et puis surtout de se faire des papiers pratiquement comme les originaux, pour pouvoir vivre toujours en Chine. Voilà. Pour les femmes, elles ont cette possibilité de vivre avec un Chinois. Souvent, il y a des enfants qui viennent aussi, qui naissent. Souvent, elles ne laissent pas le bébé à leur mari chinois, entre guillemets, mais elles l'emportent avec lui, alors c'est une autre affaire. C'est là qu'on intervient, justement, pour aider ces personnes-là, parce que, bien sûr, elles savent qu'elles ne peuvent pas gagner un pays sur toutes seules, donc elles vont essayer de contacter des gens qui aident les réfugiés nord-coréens en Chine, et donc, finalement, soit elles contactent des pasteurs protestants ou des bouddhistes ou des catholiques, donc pouvoir les aider à faire cette dernière escapade jusqu'à un pays sûr. Ça s'appelle soit la Mongolie, soit le Vietnam, soit le Laos, soit la Thaïlande.
Comment se passe l'arrivée de ceux qui choisissent quand même la Corée du Sud ?
À force de vivre dans le Nord, et donc soumis à une certaine éducation, notamment bien sûr obéir à adorer entre guillemets le dictateur, donc ils vivent dans cette éducation-là, puis en plus ils sont très liés, ils se surveillent les uns les autres. Et donc vivre en Corée du Sud, c'est au contraire... on les laisse un peu faire des choix, etc. Ils ont du mal à faire des choix eux-mêmes. Et puis surtout, il y a une guerre d'espionnage aussi qui est énorme, qui est montée aussi par les deux gouvernements. Ce qui fait qu'un Corée du Sud, lorsqu'il entend qu'il y a un Corée du Nord, il a toujours peur que ça soit un espion aussi. Donc, ils sont gardés un peu en chaîne de faïence. Ça les isole beaucoup, les régimes nord-coréens. Il y en a plus de 30 000, vous savez, en Corée du Sud. Et donc, ils sont quand même assez isolés. Alors, il y a beaucoup d'associations humanitaires ici en Corée du Sud et volontaires pour essayer d'intégrer davantage. Mais c'est très difficile.
Quel rôle jouez-vous face à cette situation ?
C'est de les accueillir d'abord. Alors ils sont très touchés par le fait que je sois étranger, moi aussi, parce qu'on a un poids commun. Eux, même si c'est des Coréens du Nord, ils sont moins étrangers que nous. En fait, on est autant étrangers l'un et l'autre. Et donc, ils sont très touchés par ce que je leur dis. Le but, c'est lorsqu'ils quittent le centre de réfugiés à bout de 3 mois, ils sont toujours accueillis dans les foyers, là où on est. Et donc, j'essaie de les rencontrer, de leur rendre des visites, pour qu'ils se sentent moins seuls et surtout pour créer des liens avec les gens de l'extérieur, les paroissiens, etc., même si ce n'est pas facile. Donc de créer des liens et pour qu'ils sentent moins cette solitude. Et puis surtout aussi, Leur grand désir lorsqu'ils sont en Corée du Sud, c'est de faire venir le reste de leur famille qui reste en Corée du Nord. Et ça, c'est un travail aussi qu'on fait de l'autre côté. Ils ont beau vivre très bien, en pleine liberté, puis avec en mangeant tous les jours, contrairement à leur pays, s'il n'y a pas leur famille, il n'y a plus de sens dans leur vie. Ils disent, ma famille est restée en Corée du Nord, elle est fille, sa chape de plomb du communisme, et puis moi je vis, je mange tous les jours, etc. Et donc ils se culpabilisent, donc leur seul désir c'est de pouvoir amener leur famille qui reste en Corée du Nord.
Comment est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils arrivent à retrouver du travail?
Ah ben ça c'est le gouvernement coréen, ça pour ça ils font ça très bien. Ils ont même une location assez importante, presque 10 000 euros pour commencer leur vie. Ils sont formés pendant les 3 mois ici, on leur présente un métier, alors c'est des métiers bien sûr de très variés, de très basiques, mais en tout cas... Bien sûr, le gouvernement coréen, le sud-coréen, fait beaucoup de choses pour y arriver à s'en sortir. Mais après, vous savez, ils ont beau avoir tout ça, après, il faut vivre. Vous voyez, ils sont stressés aussi par le fait qu'ils doivent rembourser des sommes énormes parce qu'ils sont arrivés en Corée du Sud. Le problème, c'est qu'une partie des gens aussi qui sont venus en Corée du Sud ont entretenu des dettes. Ils ont dû payer des passeurs. Les passeurs, ils arrivent aussi à les retrouver en Corée du Sud, même des Chinois, pour qu'ils soient remboursés. C'est des sommes considérables. Ils ne veulent pas utiliser la somme de départ que leur donne le gouvernement de Corée du Sud, parce qu'ils veulent l'utiliser pour faire venir leur famille. Et ça, c'est un casse-tête pour eux. Mais ils peuvent pas faire autrement de me demander de l'argent aussi, pour ça.
Et alors cet argent, comment est-ce que vous pouvez les aider? Est-ce qu'il y a de la solidarité qui s'organise? Est-ce que vous arrivez à créer un petit
voilà,
peu un élan?
Voilà, bien sûr, oui. Disons qu'on arrive à stimuler, notamment pour ma part, c'est les catholiques sud-coréens. Donc, pour aider leurs collégiens, c'est de plus en plus difficile. Parce qu'il y a des générations qui ne veulent absolument pas aider les Nord-Coréens parce qu'ils ont connu la guerre. Les Nord-Coréens qui ont fait des massacres dans les villages pendant la guerre de Corée. Donc, ces gens d'un certain âge qui ont pourtant une grande puissance financière, ils ont beaucoup d'argent. Alors, il faut plutôt contacter des plus jeunes personnes. Et elles, au contraire, très généreusement, elles essaient d'aider comme elles peuvent.
Alors, vous avez dit que vous étiez dans un centre pour jeunes et adolescents oui. sud-coréens au départ, qui s'est élargi aussi aux jeunes nord-coréens. Comment se passe justement cette rencontre?
Alors, dans nos familles, ça se passe très bien. Parce que d'abord, les jeunes coréens du Sud qui sont là, eux aussi, ce sont des victimes de la situation familiale qu'ils ont vécue. Ce sont des jeunes qui sont de familles décomposées et divorcées ou séparées. Donc, ils sont déjà eux-mêmes marginalisés dans la société coréenne. On les montre un peu du doigt. Les civils réfugiés nord-coréens, la seule tare, entre guillemets, qu'ils ont, c'est qu'ils viennent de Corée du Nord. Et donc, entre les jeunes, ça se passe très très bien. Par contre, c'est à l'école. Ils sont scolarisés dans les écoles normales. Et là, le problème commence. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment montrés du doigt par leurs copains. On les traite d'espions, on les traite de toutes choses. On demande à la professeure de ne pas dire qu'ils sont nord-coréens, mais on les reconnaît simplement par leur accent, la manière qu'ils parlent au départ, qu'ils vont corriger, qu'ils auront plus cet accent nord-coréen. Mais au départ, ils sont... Il y a une ségrégation énorme, même entre les jeunes. Et donc nous, le but, c'est de les aider à créer des liens avec les gens de l'extérieur, à vivre avec ça, qu'ils puissent aussi apprendre suffisamment à l'école et puis ensuite pouvoir apprendre un métier, puis éventuellement, ensuite plus tard, bien sûr, se marier avec une sud-coréenne, puisqu'on a c'est des foyers ouverts simplement aux garçons. Hein. On a un foyer aussi pour les filles, mais tenu par d'autres prêtres, d'autres religieuses dans notre diocèse de Souhait.
Quelle est la place de la religion pour ces réfugiés finalement?
Il y a beaucoup de chrétiens en Corée du Nord qui sont enfermés dans les camps de concentration. Une partie des réfugiés nord-coréens que j'ai aidés, et il y en a au moins 10%, c'est des chrétiens. La plupart, c'est des protestants. Ils sont devenus protestants souvent par l'influence de la Chine. Ils ont été catéchisés par les grandes églises qui sont autour dans la frontière chinoise et nord-coréenne. Et alors, il y en a certains beaucoup qui se sont fait prendre, qui ont été retournés ensuite en Corée du Nord, puis ensuite qui se sont réchappés, etc. Des aventures assez extraordinaires d'ailleurs. Et donc, une partie de ces gens-là sont aidés soit par justement des églises protestantes ou même des bouddhistes, des moines bouddhistes, ou alors par justement des catholiques. Il y en a certains, oui, s'ils ne sont pas chrétiens au départ, il y a une certaine gratitude du cœur. Ils se posent des questions sur la motivation de ceux qui les aident. Et donc, ceux qui les aident souvent expriment leur foi. Quand on part de Chine pour aller, par exemple, en Mongolie, au Laos, etc., on passe quand même pas mal de temps, beaucoup de jours ensemble. Donc, on a le temps de partager beaucoup de choses. Tous les réfugiés qu'on aide, ils ont tous des problèmes psychologiques énormes. Et des fois, il n'y a plus de route en face d'eux. C'est tout noir. Donc, ils décident d'arrêter de vivre. Il y a un taux de suicide énorme aussi. Alors, pour ceux, au contraire, qui ont de la famille, vous savez, ceux notamment qui ont de la famille en Corée du Sud, c'est ça qui les fait vivre. Il les fait supporter un certain nombre d'épreuves, qui les fait pousser à aller davantage pour aller dans un pays tiers, pour ensuite gagner Corée du Sud. Ou alors, ceux qui ont la foi aussi. Ceux qui ont la foi, ils arrivent à prier les uns avec les autres. Et puis, donc, à aller de l'avant.
Est-ce que vous avez un soutien de l'Église catholique coréenne?
Le soutien, il est moral. Je suis aidé notamment par les prêtres. Je passe souvent dans les paroisses pour parler des rêves nord-coréens et puis pour faire aussi des messes pour les bienfaiteurs, récupérer un petit peu d'argent. Et puis j'encourage les gens à prier pour la réunification de la Corée de la Corée du Sud. Il ne faut pas baisser les bras non plus, même si humainement c'est difficile. Mais on essaie de mettre le Seigneur et puis la Sainte Vierge Marie, puisqu'on fête le 100e anniversaire de Fatima cette année. Donc pour prier Dieu et la Sainte Vierge pour que vite cette réunification se fasse, surtout pour le peuple de Corée du Nord qui vit un véritable esclavage. Voilà.
Cette question de la réunification, est-ce que c'est quelque chose auquel ils croient ou pas, autant les Sud-Coréens que les Nord-Coréens ?
Alors non, il y a eu des statistiques qui ont été faites en Corée pour les moins de 30 ans. Il y en a 90% qui considèrent d'abord que la Corée du Nord, c'est un autre pays. Donc ils ne pensent pas du tout à la réunification. Ceux qui le croient plus, ils sont entre 40 et 60 ans peut-être. C'est peut-être les plus convaincus, qui se rappellent quand même que c'est un même pays, que c'était divisé par la guerre. Et par contre, je vous dis, au-dessus de 70 ans, ceux qui ont connu la guerre de Corée, ils ont eu une haine, pas pour le peuple coréen, mais surtout pour le gouvernement nord-coréen, et donc ils ne veulent absolument pas les aider. Et ils disent, on a tellement souffert, ils ont vu leur famille qui a été massacrée, ce qu'on appelle par les Rouges à l'époque, donc ils ne veulent absolument pas de réconciliation. Donc en fait, c'est à nous quand même de toujours, on parle toujours, on prie pour ça. Mais alors il faut ensuite la mettre en acte, notamment la première chose que je leur dis, c'est d'accueillir les réfugiés nord-coréens, les nord-coréens qui sont 30 000. Et eux, d'abord, il faut que ça commence par là, les accueillir, les aider, parce que c'était un même peuple avant. Et donc, au-delà des clivages politiques, etc., de ne pas baisser les bras, de prier pour cette réunification. Même si à vue humaine, elle est impossible, et rien n'est impossible à Dieu, donc il faut continuer à prier.
C'est d'autant plus difficile que le régime nord-coréen semble s'être durci depuis quelques années. Est-ce que vous ressentez cette évolution ?
Bien sûr, d'abord parce qu'il y a moins et moins de réfugiés qui passent. Kim Jong-un a remplacé les gardes frontières qui étaient des simples militaires par sa garde personnelle, entre guillemets, par les commandos. Maintenant, pratiquement les citoyens. Alors, ils passent par d'autres moyens et d'autres moyens à faire, mais disons que c'est de plus en plus difficile de passer, d'abord la frontière. Et puis ensuite, il y a de plus en plus des chasseurs de têtes en Chine. Il y a des rafles énormes, à la fois de la part des gendarmes chinois, mais aussi de la part des chasseurs de têtes, c'est-à-dire les commandos en civil nord-coréens. Enfin, il y a un accord, d'ailleurs, un accord entre politiques. Un traité entre la Corée du Nord et la Chine pour justement donner patte blanche aux Nord-Coréens de venir en Chine pour pouvoir ramener leurs co-régionnaires dans leur pays.
De quoi vous parlent les Nord-Coréens qui a eu ces dernières années justement sur la vie en Corée du Nord ? Est-ce qu'elle est devenue plus compliquée matériellement ou pas ?
C'est-à-dire que ça dépend où vous vous trouvez en Corée du Nord. C'est toujours pour la petite population qui vit au ras du sol, c'est toujours pareil. Elle cherche à survivre. Et puis pour les gens qui sont un peu plus haut, c'est toujours le même système. C'est de pire en pire. En ce sens, il y a des condamnations à mort publique maintenant dans des stades, etc. Donc il y a une certaine peur qui était moindre avant, au temps de Kim Jong-il, qui est davantage voyante. Ils font peur aux gens de manière plus voyante. Il y a des vidéos aussi, par exemple, pour dissuader les gens à partir en Chine, à s'enfuir en Chine. Il y a des vidéos de torture qu'ils commettent contre les réfugiés nord-coréens. Et donc, ils présentent ça pour dissuader les gens, bien sûr. Et c'est de ce côté, c'est pire en pire.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.